On accueille maintenant Nadine au 3921. Bonsoir Nadine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Nadine et quel
Bretagne.
Âge avez-vous? De Bretagne, une Bretonne. Très bien.
Oui, une vraie Bretonne.
Une vraie Bretonne? Super.
Oui.
Dans quel côté de la Bretagne?
Alors, le nord de la Bretagne.
Le nord de la Bretagne, d'accord.
Voilà. Mais je suis une fille du bord de la mer.
Ah, quelle chance.
J'ai habité dans une île.
Oui.
J'ai des amis qui habitent la presqu'île de Crozon.
Mmh.
J'ai des amis marins-pêcheurs. Le vrai.
Super.
Oui.
Ça, c'est, voilà. C'est une vie incroyable. Hein. C'est une vie... être marin-pêcheur
là-bas. La vie des marins-pêcheurs.
Oui, oui.
Alors, j'ai des amis qui étaient... qui allaient à la pêche à la langouste.
Oui.
Le Camaret. Camaret, c'est un port qui n'existe plus.
Ah bon?
Mais... alors, Camaret existe, bien sûr, mais le port n'est plus exploité.
Oui.
Et donc, autrefois, c'était un port de langoustiers.
D'accord.
Et donc, j'avais des amis qui partaient à la pêche à la langouste. Voilà.
Moi, je me souviens avoir tourné avec une jeune femme qui s'appelait Céline, qui était une maman célibataire, qui s'était, une Parisienne qui s'était expatriée du côté de... plus loin que Quimper, je crois que c'était Quimperlé, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, je me souviens avoir tourné pendant 3 jours avec elle et avoir fait la connaissance de toutes ces femmes de pêcheurs qui attendaient et qui s'occupaient des enfants, oui. Et qui ont un rôle central hein, dans le rôle que leurs maris ont pour, bien évidemment, faire bouillir la marmite et tout ça. C'est,
oui.
Je trouve que j'avais ressenti... lorsque j'étais allé là-bas, dans ce petit village, enfin une petite ville de Bretagne, où le vent fouettait, il y avait quelque chose de vous savez, de comme un air de western en fait. Il y avait une ambiance là en plein hiver avec ces gens qui continuent de pêcher, hein, parce qu'ils pêchent toute l'année. En tout cas, il y avait quelque chose de particulier. Ça m'avait marqué.
C'est tout à fait exceptionnel. Quand j'ai commencé à être plus grande, j'ai lu les livres de Père Jacques Aiglias.
Oui.
Et je me suis dit, il faut que j'aille voir. Et donc, je suis allée voir donc, du côté de la Pointe du Raz, du côté du Cap Sylvain. Je suis allée voir ce que décrivait cet auteur, voir... la Bretagne, quoi, le fin fond de la Bretagne.
Mmh.
Et puis, je suis allée sur l'île de Sein. J'ai fait la traversée d'Audierne jusqu'à l'île de Sein. Et ce jour-là, nous avons eu la chance d'être accompagnés par un banc de dauphins, d'être accueillis par des phoques. Donc, c'était merveilleux de quitter la côte et puis tout d'un coup de voir apparaître un village au milieu de l'eau. C'était splendide. Voilà. C'est très sauvage. Ce n'est pas une vie facile. Mais voilà, moi qui suis de là, et encore, je ne suis que adoptée. Je ne suis pas une vraie du pays, si vous voulez. Je trouve que la Bretagne, c'est exceptionnel. Voilà. C'est un peu comme la Corse. C'est exceptionnel. Voilà.
Je pense que de toute façon, chacun a un amour pour sa région particulière. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des régions où ressort cet amour un peu plus
de la terre.
Fort.
Et exactement. Du bord de la mer. Oui.
Alors, qu'est-ce qui vous amène, ma chère Nadine, à part cet amour de la Bretagne?
Alors moi, j'ai de grandes difficultés dans ma famille... avec mes sœurs.
Combien de sœurs êtes-vous?
Nous sommes 3 filles.
Oui.
Et j'ai 2 petites sœurs. Et mes petites sœurs se sont montrées cruelles à mon égard. Donc j'ai 63 ans.
Oui. Quel âge ont-elles, elles?
La deuxième a 61 ans et la plus jeune, à 7 ans de moins, donc 53, 54 ans. Je ne les ai pas vues depuis 5 ans. Elles m'ont demandé un jour par téléphone de venir à la maison parce que papa était mort. Donc, je suis venue, bien sûr, abasourdie qu'on ne m'ait pas appelée plus tôt, puisque je me dis, mais papa est mort quand même, on aurait pu m'appeler plus tôt. Quand même,
oui, oui. Combien de temps donc, après, m'avez-vous dit ? Combien de temps après ?
Comment ?
Combien de temps après la mort de votre père ?
Ben, elles m'ont appelée un matin, comme ça, à peu près à l'époque du premier de l'an, en 2001.
Oui.
Et j'arrive à la maison. Et mon père était en vie. Donc, je monte à la cuisine et je dis, mais papa est en vie. Et elles me disent, oui. Et comme on ne savait pas comment te faire venir à la maison, donc on a dit que papa était mort.
Incroyable.
Voilà.
Mais vous ne veniez jamais à la maison ?
Comment ?
Vous ne veniez jamais à la maison ? Pourquoi ?
Alors, j'avais pris du recul par rapport à la famille qui était dysfonctionnelle.
Oui. Qu'entendez-vous par dysfonctionnel ?
Comment ?
Qu'entendez-vous par dysfonctionnel ?
Environ 2 ou 3 ans plus tôt, maman m'avait demandé d'assister à un entretien qu'elle avait avec le conseiller financier. Et le conseiller financier s'était déplacé à la maison pour informer maman que mon père avait dépensé en 3 mois 45 millions d'anciens francs, c'est-à-dire toutes les économies de leur vie.
Et il les avait dépensés dans quoi ?
Il s'était montré particulièrement généreux au niveau de mes sœurs.
D'accord.
Voilà. Donc dans quoi ? Dans des voitures, dans un, semble-t-il, un restaurant dancing.
Un restaurant où, pardonnez-moi ?
Dancing.
Oui.
Style discothèque, si vous voulez.
D'accord.
Qui aurait été acheté pour une de mes sœurs.
Mmh.
Bon, de nombreuses... des cadeaux qui n'étaient pas en fonction de son pouvoir d'achat. Et donc,
ce qui veut dire qu'il a donné plus même qu'il n'avait de côté ?
Oui.
Ah, d'accord.
Donc, maman ne comprenait absolument pas.
C'est-à-dire qu'il l'avait fait dans son dos ?
Alors, nous pensons que la signature sur l'acte d'achat du restaurant a été
imité.
Mm-hmm. Mais maman a eu beau le dire, elle a eu beau dire qu'elle n'avait jamais signé ses papiers, qu'elle n'était jamais allée chez un notaire pour signer ses papiers, elle n'a pas été entendue. Voilà. Bref, le banquier nous a demandé à toutes les deux d'intervenir. Et je lui dis, que me conseillez-vous ? Mais je savais déjà, j'avais compris. Elle me dit, il faut que votre papa cesse. Sinon, nous allons devoir demander aux enfants de subvenir aux besoins de leurs parents.
Mmh.
Donc, je dis, très bien, j'appelle le médecin de famille et je vais lui demander de faire mettre mon père le plus rapidement possible. Non, sous sauvegarde de justice en urgence.
D'accord.
Et donc, j'ai dit à maman, et moi-même je l'ai fait, rédige un courrier, maman, vois, il suffit de 2 lignes. Hein. Donc, nous l'avons fait toutes les deux, et j'ai appelé mes sœurs en leur disant, est-ce que vous voulez bien faire la chose suivante aussi pour que nous montrions un front uni, si vous voulez, mmh, vis-à-vis de papa. Puis, alors, je ne sais pas si elles l'ont fait. ce que je fais, moi, c'est que par la suite, mon père a fait une requête pour contester la mise donc sous sauvegarde de justice qui a été prononcée le lendemain. Vous voyez comme quoi la justice peut agir très rapidement. Et une mesure de curatelle a été prononcée et il l'a contestée. En nous mettant en cause, maman et moi, alors moi j'emploie les mots de mon père. Hein.
Vous mettez en cause comment ?
Eh bien que nous avions l'intention de mettre la main sur le magot du vieux.
Oula, mais ils ne s'entendaient plus très bien, vos parents, pour que ça tourne vinaigre comme ça ?
Alors, mon papa a fait 7 ans de guerre en Indochine.
Oui.
Et donc, déjà, toutes les personnes, peut-être un petit peu âgées, qui ont pris soin des anciens combattants, savent qu'ils reviennent de la guerre, souvent abîmés.
Mmh.
Et ensuite, mon père s'est mis à s'alcooliser, plus que de raison. Donc, il était... c'était un homme et nous n'étions rien. Voilà. Et comme nous nous sommes opposés à lui, il a émis la requête, mais surtout en nous mettant en cause, maman et moi. Voilà. Donc, en disant que maman s'alcoolisait davantage que lui, et en disant que moi, je relevais de la folie. Voilà.
Que vous releviez de genre de psychiatrie, quoi, en gros.
Voilà. Mmh. Ouais. Ouais. Donc, il y a eu donc un deuxième procès. Mais entre-temps, vous voyez, nous avions demandé un HDT pour essayer d'aider papa. C'est-à-dire, un HDT, je précise, c'est une hospitalisation sur demande d'un tiers. Donc, nous avions demandé qu'il soit placé dans un service d'alcoolologie parce que mon père pouvait partir à quatre pattes de la maison jusqu'à l'épicerie pour aller chercher une bouteille de vin.
Ah oui, vous voyez ? D'accord.
Donc, nous avons donc sollicité un classement et papa était extrêmement opposant aux soins et très manipulateur. Opposant aux soins violemment. Donc, il a été hospitalisé dans plusieurs endroits dans les Côtes d'Armor.
Mmh.
Et il a été renvoyé d'à peu près toutes les structures. Voilà. Tellement il était violent.
Oui, parce qu'il a, il avait un problème d'alcool sérieux, votre père, donc.
Oui, sérieux.
D'accord.
Dans toutes nos démarches, mes sœurs étaient absentes. Et quand elles ont... Donc moi, une fois que ça a été à peu près réglé, si vous voulez, que semble-t-il que les choses pouvaient... devenir un peu vivable, je me suis un peu retirée de ces relations et parce que j'avais un compagnon il avait 2 enfants et que nous essayions tous les deux de reconstruire notre vie. Donc mes sœurs ont réussi à me faire revenir à la maison et donc j'ai commencé à m'occuper de mon père. Donc, j'ai tout quitté pour m'occuper de mes parents. Ce compagnon était kinésithérapeute. Il y avait un jeune homme donc son fils, qui a grandi, mais qui était en train de passer son bac. Et il y avait une jeune fille qui devait avoir 13 ans à peu près. Et que j'aimais beaucoup. Et en fait, j'ai choisi d'aller m'occuper de mon père.
D'accord. Bon, en tout cas, on sent cette famille dysfonctionnelle, comme vous le dites. C'était...
Vous sentez ?
Ah ben oui, il y avait un souci d'alcool, visiblement. Il y avait
des maltraitances.
Il y avait des maltraitances sur votre
oui.
maman, je suppose.
Sur maman.
Sur vous aussi.
Maman, sur moi aussi. Mmh. Moi, j'étais une putain. Voilà.
D'accord.
J'étais une putain.
Donc, on comprend aisément que vous n'ayez pas vraiment envie de passer trop de temps dans cette famille. Donc, vous êtes
voilà.
vous êtes protégée. Ai-je raison?
Je me suis protégée,
disant...
mais quand elles m'ont dit que papa était mort, je suis arrivée tout de suite.
D'accord. Bon.
Et j'étais
donc,
piégée.
Donc, du coup, vous arrivez. Et
oui.
Pourquoi vous avez-elle fait venir, en fait? Est-ce...
Eh ben, pour s'occuper de papa, parce que mon père était tellement opposant aux soins qu'il n'y avait plus une seule structure qui voulait le recevoir.
Oui.
Et donc j'ai des courriers à la maison qui me disent vous avez sollicité un placement dans tel établissement, mais après avoir reçu votre père ou bien votre mari, si c'est maman qui reçoit le courrier, nous nous apercevons qu'il nécessite beaucoup de soins.
Mmh.
Qu'il mobilise beaucoup de personnel et nous ne sommes pas en mesure de le prendre en charge. Voilà.
D'accord.
Donc, je me suis occupée de lui à la maison. À peu près un an. Et très rapidement, en m'occupant de papa, je me suis rendue compte qu'il ne souffrait pas seulement de problèmes d'alcool, que certainement il avait quelque chose d'autre. Ce qui m'a sauvée, vous voyez, c'est qu'il a saigné du nez. Et là, j'ai demandé au médecin qu'il passe un scanner et on a trouvé des glioblastomes, c'est-à-dire des tumeurs neurologiques.
Oui.
Et là, le médecin de l'hôpital m'a expliqué que mon père pouvait mourir d'une minute à l'autre.
Mmh.
Et que donc, heureusement que j'étais allée... Au fond de moi-même, je me dis heureusement que je suis allée m'occuper de lui et heureusement que je suis là parce que c'était un laissé pour compte, si vous voulez.
Mmh.
Alors que c'était un homme qui avait vécu des choses tellement difficiles dans sa vie que je comprenais au fond de moi-même qu'il soit devenu ce qu'il était devenu.
Mmh.
Voilà. C'est-à-dire que mon père... Et ma mère et moi, nous avons vécu une tragédie quand nous étions jeunes dans la presqu'île de Crozon.
Une tragédie?
À la suite d'une erreur médicale, ma petite sœur n'a pas été vaccinée contre la polio et elle a contracté la polio. Donc, mes parents, qui étaient alors un couple uni, un couple parfait, des gens heureux, ont tout perdu en moins d'une heure, puisque leur petite fille était... Elle a fait une méningite en même temps qu'elle a fait la polio.
Oui.
Donc, elle était raide, mourante. Dans les bras de maman. Et moi, je me souviens de ça comme si c'était hier. Hein. Et je regardais ma petite sœur mourir. Je regardais ma mère mourir avec sa petite fille dans ses bras.
Oui.
Et je regardais mon père conduire comme un fou pour aller jusqu'à Brest, où il a fait hospitaliser toute la famille. Hein.
Oui. Oui, tout le monde était sans dessus dessous, je suppose.
Voilà.
Bon, mais alors.
Et donc voilà ce à quoi ça aboutit, c'est-à-dire que mon père s'est mis à boire,
à
s'alcooliser.
Ouais.
Ma mère est devenue dépressive.
Mmh.
Et mes deux petites sœurs sont devenues des enfants rois.
Oui. Oui. D'où le comportement de votre père qui cède. Hein,
qui cède et qui irait leur décrocher la lune.
Oui.
Voilà.
Mmh.
Ouais. Ouais. Et donc, il est décédé. Ce que moi, je trouve très curieux, c'est que Mon père était un homme toujours très entouré, généreux. Et pendant cette année où maman et moi, nous l'avons pris en charge, nous étions toujours que toutes les deux, si vous voulez. Toutes les deux. Quand il est mort, certaines personnes sont venues à l'enterrement. Nous ont dit, « Oh, c'est quand même curieux que Jean soit mort d'une crise cardiaque si vite. »
Et pourquoi cela ?
Eh bien, mon père est mort d'un cancer, c'est-à-dire de glioblastome.
Oui, mais pourquoi voilà. Cette réflexion ? Pourquoi dire c'est bizarre que votre père soit...
Parce que Sylvie a raconté que c'était une crise cardiaque. Voilà. Ma sœur, Sylvie.
D'accord.
Maman et moi n'avons pas été saluées, vous voyez, le jour de l'enterrement.
Saluées par vos sœurs ?
Non, par certains membres de la famille. C'est-à-dire que comme il y avait eu avant la mise sous curatelle et que papa avait contesté la mesure, nous étions les méchantes, maman et moi.
Mmh.
Et donc, les membres de la famille ont salué Sylvie et Valérie, mais pas nous. Voilà. Et par la suite, j'ai continué à m'occuper de maman. Voilà, pendant 15 ans.
À distance ou...
Ah non, non, non.
Et donc
à la maison.
D'accord, et donc vos sœurs ne venaient pas voir votre mère pendant ces 15 ans ?
Si, elles sont venues régulièrement, je dirais. À la fin, elles ne venaient plus, mais régulièrement pendant un certain temps. Je leur ai demandé, à mes sœurs, si elles voulaient bien prendre la relève, parce que j'étais fatiguée. Parce que mon corps m'a envoyé des signaux d'alerte pour que je prenne de la distance. Mais mes sœurs travaillaient. Mes sœurs étaient très imbues d'elles-mêmes. Elle n'allait quand même pas consacrer quelques jours de vacances, par exemple, à leur maman. Donc, je n'ai pas quitté ma mère pendant 15 ans.
D'accord. Et donc...
Et la dernière année
oui.
De prise en charge, ma mère avait beaucoup de chagrin. Donc, elle s'est laissée partir. J'ai supplié mes sœurs de venir à la maison parce que maman les appelait. Maman souhaitait les voir. Elles ne venaient pas. Mais elles ont quand même contacté notre médecin traitant pour demander qu'est-ce qu'elle avait cette folle, c'est-à-dire moi, à les appeler comme ça pour venir à la maison. Est-ce que maman était malade ? Point d'interrogation. Alors, ma mère avait un cancer des os. Elle ne voulait pas se faire opérer d'une cataracte, donc elle était aveugle. Quand je dis cancer des os, ça veut dire qu'elle marchait entièrement courbée, que son... Comment on appelle ça ? Alors, j'ai un mot qui me manque. Si elle n'utilisait pas sa canne, elle pouvait tomber, si vous voulez, parce qu'elle
oui.
pouvait basculer en avant. Lorsqu'on a fait les radios pour ce fameux cancer des os, qui s'appelle un myélome, on a trouvé des trous dans ses os. Maman a fait un AVC. À chaque fois, j'étais présente, bien sûr. Voilà. Et puis, à la fin, Elle était tellement recroquevillée sur elle-même qu'elle avait du mal à respirer. Et donc, je lui ai fait un lundi matin un bilan sanguin, un bilan urinaire. Je suis allée porter tout ça au laboratoire. J'ai réclamé un saturomètre d'oxygène à la pharmacie. Et ma maman n'était plus qu'à 54. L'alarme, c'est 90.
D'accord. Et votre père, et votre père était en vie encore, hein, là.
Ah non, mon père était décédé depuis 14 ans.
Donc, on va en revenir, parce que si vous voulez, il y a beaucoup de monde ce soir qui appelle. Je veux aller au
cœur. Je donne
ces
détails-là parce que j'ai fait hospitaliser ma maman ce jour-là.
Oui.
Et quelques jours plus tard, j'ai fait un accident vasculaire cérébral.
D'accord. Donc,
et j'avais beau dire à mes sœurs que j'étais fatiguée.
Elle ne venait pas, elle ne vous aidait pas.
Non.
D'accord. La situation aujourd'hui est tendue, m'avez-vous dit?
Oui, elle est tendue parce que donc on m'a aussi trouvé une tumeur qui évoluait à bas bruit au niveau de la colonne vertébrale. On m'a trouvé une maladie génétique. Alors, il m'était strictement interdit de manifester la moindre plainte. Or, on m'a trouvé cette maladie génétique qui ne s'exprime que par de la douleur. Cette maladie provoque des fentes dans les os, c'est-à-dire que les os dégénèrent. Mes sœurs ne sont pas venues me voir quand j'ai fait mon accident vasculaire. Mes sœurs ne sont pas venues à l'hôpital prendre le relais auprès de maman. Donc, j'ai signé une décharge pour quitter l'hôpital pour pouvoir continuer à prendre soin de maman. Voilà. Et ma mère est morte. Donc, elle a été hospitalisée en tout et pour tout 3 semaines. Elle est morte à 18h. À 18h30, mes sœurs présentes m'ont dit « Maintenant, la maison nous appartient. Donc, si tu retournes à la maison, tu nous paieras un loyer. Et sache que nous avons l'intention de la vendre. Donc, il faut que tu trouves un logement. » Où aller vivre. Voilà. Or, je venais de faire un accident vasculaire avec perte de la vue, transitoire. Enfin, j'en étais quand même choquée.
Bien sûr.
J'avais une tumeur au niveau de ma colonne vertébrale pour laquelle le radiologue m'a dit « Oh, c'est votre... » J'avais eu un cancer. « C'est votre cancer qui est en train de flamber. » Il vous reste 3 semaines à vivre. Et avec ça, mes sœurs me disent, eh ben, tu nous payes le loyer de la maison si tu restes dans la maison. Et puis, tu cherches un endroit pour aller vivre puisque nous, on veut vendre.
On va marquer une petite pause, si vous voulez bien, Nadine.
Oui, oui.
Et puis, on va continuer de... à parler de ces relations tendues entre vous et vos sœurs. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques instants. Europe 1. 23h53 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne. Nous continuons notre discussion avec Nadine. Donc, ces sœurs intraitables avec vous, qui veulent vous faire payer un loyer dans cette maison. On a encore 6 minutes pour... conclure votre témoignage. Comment est-ce que vous avez réagi et est-ce que vous vous êtes opposé à elle et où en est-on aujourd'hui?
Alors, comment j'ai réagi? D'abord, il fallait que je récupère un petit peu parce qu'un AVC, ça vous démolit.
Bien sûr, bien sûr.
Ça n'arrive pas par hasard. Ça arrive parce que vous êtes fatigué. Ensuite, enfin moi je pense ça. Ensuite, l'intervention chirurgicale sur mon dos, C'était une tumeur qui comprimait la moelle épinière. Soit j'allais rester sur la table, ce que m'a dit mon médecin traitant, soit j'allais perdre l'usage de mes jambes. C'était une tumeur assez volumineuse, puisque donc elle avait aussi investi le poumon droit et elle appuyait sur la plèvre, elle comprimait la plèvre. Donc, il fallait que je me prépare pour cette intervention chirurgicale et surtout que je mesure bien la décision que je prenais, le risque que je prenais, si vous voulez. Ensuite, quand je suis revenue à la maison, donc j'ai été opérée avec succès. Alors bien entendu, je marche avec des cannes. Bien entendu, j'ai des difficultés à me servir de mes bras. J'ai des difficultés, mais je suis en vie. Je me suis battue pour rester en vie. Et puis, je pensais que tout ça se serait passé, vous voyez, qu'elle se serait rendue compte que c'était un peu grave quand même et que... Voilà. Non, non. Pendant ce temps-là, où j'ai consacré, où je me suis un peu retirée de la vie pour essayer de me battre, elles sont encore revenues sur le fait que j'étais certainement folle. Donc, je n'avais aucun moyen de rentrer en contact avec elle.
Oui.
Donc, je leur ai proposé une médiation. Nous nous sommes retrouvés en médiation et il y a des techniques, vous savez, pour empêcher les gens de parler. Donc, en médiation, mes sœurs m'ont réclamé les bijoux de maman. Et ma mère n'avait pas de bijoux. Et ensuite, elles ont réclamé des tableaux de grande valeur qui étaient dans la maison. Donc, elles ont cité des mots, des noms.
Oui.
Et les médiatrices se sont retournées vers moi en me disant, mais est-ce que vous vous rendez compte, madame, que vous avez des Buffet, des Cézanne et des Matisse chez vous?
Ah oui, carrément.
Mais oui.
Et
Elles
donc...
étaient convaincues. Je dis, mais madame, ma sœur oublie certainement que la maison a été estimée à plusieurs reprises à leur demande et que certainement un des notaires, s'il avait remarqué un Buffet, un Cézanne ou un Matisse, l'aurait mentionné. Parce que je présume qu'un notaire remarque un tableau de grande valeur quand même. Et c'est alors que ma sœur Sylvie a dit de grande valeur affective. J'avais encore rien compris. Voilà. Et maintenant, nous sommes arrivés à avoir pris des avocats pour essayer de régler une succession d'environ 100 000 euros. Et c'est tout, hein? Et simplement parce que elles ne veulent pas. C'est-à-dire que mes sœurs sont des enfants élevés. Comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça?
Écoutez, on va conclure juste après alors, parce que je sens que vous avez encore quelques minutes pour m'expliquer ça. Donc on va
Oui,
laisser passer l'info et puis mais continuez encore quelques minutes.
oui.
Elles vous ont laissé passer quoi?
Je pense que mes sœurs ont été élevées avec des parents raisonnablement à l'aise. Or, moi, mes souvenirs sont complètement différents. Moi, je me souviens de mes parents pauvres. Je sais que mon père et ma mère ont fait très attention pour réussir à nous offrir
une vie décente, une belle
à
vie.
Peu près décente.
Oui.
Mais quand j'ai vécu avec maman, je l'ai gâtée, si vous voulez. Moi, j'ai travaillé avant d'être obligée d'arrêter de travailler. Mmh. J'ai travaillé. Et donc, j'avais un petit peu de sous de côté. Et donc, j'ai acheté un frigo. J'ai acheté des plaques électriques.
Vous êtes assumée toute seule par rapport à visiblement vos plus jeunes sœurs. On va laisser passer l'info, ma chère Nadine, et puis on se retrouve dans quelques instants. D'accord ?
Ok.
À tout de suite. Minuit passée de 8 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin et j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie, chers amis. Nous sommes avec Nadine qui nous décrit une famille dysfonctionnelle dans laquelle elle affronte des relations très tendues avec ses deux jeunes sœurs. Nadine, aujourd'hui, en fait, où en êtes-vous avec ces deux sœurs ? Est-ce qu'elles vous harcèlent toujours ou est-ce que vous avez réussi à mettre à nouveau une distance entre elles et vous ?
Alors, de toute façon, nous n'avons plus aucun contact. Je suis bien entourée. J'ai interpellé des professionnels pour qu'ils m'aident, pour qu'ils me fassent prendre conscience que le comportement de mes sœurs n'était pas normal. C'est-à-dire...
Elles se comportent un peu comme des enfants gâtés, vos sœurs.
Voilà. La technique... que je décris pour... où ma sœur Sylvie prétend qu'il y a des bijoux ou prétend qu'il y a des tableaux. Ça s'appelle du gaslighting. C'est en anglais, hein, moi je ne connais pas trop bien. C'est une technique pour faire paraître l'autre fou.
D'accord.
Et elle est décrite, cette technique, comme étant un abus mental et psychologique.
Mmh.
Ça fait partie des mauvais traitements dans une famille.
Mmh. Et tout ça, voilà. Au fin de vous nuire ou il y a encore une quête financière derrière tout ça ?
Oh, je pense que c'est simplement pour récupérer la maison et la vendre, c'est tout.
D'accord. Et la maison, vous êtes dedans encore ou
vous oui, avez... parce que je suis en convalescence. D'accord. Donc je ne vois pas trop. L'intérêt qu'elles ont d'interpeller un avocat ou ça fait rien, moi j'en ai pris un aussi, je me défends.
Oui, mais oui, vous avez raison.
Ce que j'aurais aimé vous dire ce soir,
oui,
c'est que une famille pathologique ou dysfonctionnelle, c'est grave. Il y a maintenant des professionnels pour aider les gens. Il ne faut pas laisser s'installer de telles relations parce que ça va jusqu'à des comportements extrêmes, jusqu'à des souffrances. Je sais pertinemment que mon père, en s'alcoolisant plus que de raison, a mis en quelque sorte fin à sa vie. Je sais que maman, la dernière année, elle a abdiqué. Et moi, quelque part, je ne suis pas loin non plus de baisser les bras parce que je suis épuisée. Je suis sous morphine. Je n'y arrive plus.
Oui, alors il faut que vous vous protégiez. Vous avez bien fait de prendre un conseil de toute façon pour vous protéger. Ça peut durer longtemps, hein, tout ça. Donc, mieux vaut...
Oui, mais c'est extrêmement triste.
Oui, bien évidemment, bien évidemment.
Mes sœurs, je les aimais. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. et je ne comprends toujours rien. Vous comprenez ?
Mmh.
Je ne comprends pas qu'on puisse... vous voyez, on est à la veille de Noël. Quel bonheur ce serait d'être en famille.
Là, et... ça me semble très mal engagé.
Et bien entendu, je n'ai plus de famille, je le sais.
Ouais,
vous voyez ? Et je trouve que ça, c'est dommage.
C'est dommage, mais c'est aussi une réalité aujourd'hui. Voilà. Oui. C'est une réalité. Ça n'est pas que votre réalité.
Je sais bien.
Vous le savez. Donc, oui. Une famille peut aussi être recomposée d'une manière ou d'une autre. Et je trouve qu'une vie nous donne l'occasion de composer et de recomposer en permanence une famille. Vous voyez, je pense que ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir bien notion et conscience que finalement, nous ne sommes que de petites choses qui traversons comme ça le temps, comme les libellules traversent le temps et assez vite, finalement. Et que nous sommes tous destinés à la même chose. Et que lorsqu'une famille dysfonctionne, bien évidemment, il est important de pouvoir se faire aider et de consulter. Puisque nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des spécialistes connaisseurs d'école en psychanalyse et en psychologie qui peuvent nous aider à être plus forts et à comprendre les choses. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi que ce sont des choses qui sont finalement assez communes et qu'on doit être en conscience de composer sa propre famille sans être buté, sans être bloqué sur une décision. On peut à un moment ne plus être en adéquation avec quelqu'un. Et puis, le temps faisant, les pensées évoluant, ça peut revenir. Il ne faut jamais dire jamais, mais essayer de s'entourer. Parce que finalement, la famille, c'est ça. Ce sont ces gens qui sont bienveillants avec vous et avec lesquels vous êtes bienveillants à un moment de votre vie.
Alors, certainement, parce que vous voyez, le soir, je vous écoute. Et je reçois ces témoignages avec plaisir. J'écoute l'intervention des auditeurs et je me dis en moi-même, c'est ma petite famille, si vous voulez.
Mmh. Je le dis souvent que cette communauté est une famille.
Oui, et je pense que quelque part, alors moi je crois à l'inconscient, je pense que quelque part, il y a cette bienveillance qui peut peut-être nous réunir et ça m'aide beaucoup, voilà, ça m'aide beaucoup. J'aurais voulu que vous compreniez cela ce soir.
C'est entendu, je le reçois oui. 5 sur 5, Nadine.
Je pense que vous êtes un être bienveillant, voilà.
Et je ne suis pas le seul.
Non.
Non.
Non, non. Non, non.
Je ne suis pas le seul. Mille merci en tout cas pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1.
J'ai essayé de m'exprimer de mon mieux. Donc je suis sous morphine, j'ai fait un AVC. C'est extrêmement difficile pour moi de parler.
Mm-hmm.
Mais j'ai essayé de vous expliquer que ce soit à peu près cohérent. Voilà.
Ça l'était, Nadine.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée.
Et nous de même. On vous embrasse bien fort.
Merci beaucoup.
Au revoir et puis
bon courage.
À tout à l'heure et à demain. Donc.
Oui, oui. À demain.
Au revoir.
Au revoir.